Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche pour Voix au chapitre. Et le plaisir encore d'accueillir Leïla Sebar. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là à nouveau, Leïla Sebar. Un rendez-vous est pris à chaque livre que vous nous offrez, que vous publiés et qui sont vraiment des histoires, des nouvelles pour celui-ci, puisqu'il s'agit d'un... Le titre s'appelle « Dans la chambre ». Il est préfacé par Michel Perrault. Il vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Il s'agit de nouvelles. Mais vous présentez encore Leïla Sebar. Vous êtes romancière, essayiste, nouvelliste. On vous doit depuis quelques décennies déjà quelques dizaines justement d'ouvrages, de romans, de recueils de nouvelles, des essais. Vos thèmes littéraires sont souvent, pour ne pas dire presque toujours, liés sans doute à votre histoire, on y reviendra, à votre personnalité. Vous avez quitté l'Algérie pour la France en 1961 et vous êtes né d'une mère française et d'un père algérien. Pour vos écrits rappellent sans doute quelque part un peu de ces histoires. Dans les nouvelles qui viennent de paraître, on retrouve des héroïnes chez Razad, Fatima et d'autres encore. On retrouve des images d'hier à aujourd'hui. Chaque nouvelle a une empreinte de cette histoire singulière qui se passe ou à Boussarda, ou à Constantine, ou à Marseille, ou à Tlemcen, ou à Strasbourg, ou à Paris. En tout cas, des endroits ici et là qui sont empreintes de l'histoire de l'Algérie, ici ou là-bas. Des courtes nouvelles, c'est un exercice particulier d'écrire des nouvelles, Leïla Sebar. Peut-être avant de parler de nouvelles, rappelez que c'est Michel Perrault qui a préfacé votre ouvrage dans la chambre. C'est pas rien, Michel Perrault, c'est une grande dame historienne, féministe. Elle vous est proche, vous retrouvez avec elle sur le féminisme, par exemple, sur l'histoire des femmes.
C'est une historienne qui s'est intéressée à l'histoire des femmes, enfin, une des premières, enfin, c'est une pionnière. Et elle a beaucoup travaillé, beaucoup publié, et elle a publié aussi une histoire des chambres. Une histoire, comme historienne. Et moi, ça m'amusait, enfin, ça fait longtemps que je pense aux chambres, mais ça m'amusait d'avoir un lien avec Michel Perrault à travers la chambre, cet espace clos de la chambre.
La chambre est un espace clos. La chambre est un espace où l'on vit quand même une partie de son temps, pour y dormir, pour y passer d'agréables moments d'amour, pour y réfléchir aussi, pour y travailler peut-être. Ça peut être une chambre de travail. Ça peut être une... On y reviendra, parce que dans une des nouvelles, il y a un atelier qui est en fait la chambre de couture pour une jeune femme. C'est une chambre que vous, personnellement, vous ressentez comme quelque chose de très clos et vous aimez vous y retrouver en tant que romancière.
Ah oui.
C'est un lieu où vous écrivez, la chambre.
Virginia Woolf a écrit un essai qui s'intitule « Une chambre à soi » et on comprend. Dire quand on écrit, on comprend à quel point on a besoin d'un espace clos, une chambre sanctuaire d'une certaine manière. Et moi j'ai une chambre à moi, sanctuaire, avec bon tout ce qui est nécessaire à l'écriture. J'écris à la main, donc j'ai un stylo plume très précieux. Et mes fils savent
qu'on n'entre pas dans cette chambre.
Si, elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite, non.
Elle n'est pas un lieu clos que pour vous. Il peut être ouvert à vos fils à...
Non, mais...
dans le temps d'écriture.
Dans certaines conditions.
D'accord. Ah oui, il y a des règles de... Voilà, c'est votre vie, c'est votre espace.
Oui. Bien sûr. Ils le savent, ils le respectent. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le rendez-vous chez le psychanalyste est aussi un rendez-vous dans une chambre?
Ah oui.
Il y a le canapé, il y a le divan.
Bien sûr. Il y a le divan, le fauteuil, je ne sais pas, il peut y avoir une table, je ne sais pas, je n'ai jamais été en analyse, mais j'imagine. Il y a de belles photos du cabinet, on appelle ça un cabinet, de Freud. Et on voit, il y a des tapis d'Orient, il y a un beau divan, c'est une chambre à lui, quoi.
Dans la chambre, donc le titre de ce recueil de nouvelles qui vient de paraître, Leïla Sebar, on retrouve quelques nouvelles, courtes ou plus longues, qui se situent dans, les dans une chambre, ou en tout cas dans un espace clos, qui n'est pas toujours une chambre, puisque ça peut être une prison, ça peut être d'autres endroits aussi, un hôtel, un foyer, enfin voilà.
Oui, mais on a la chambre.
Mais on a la chambre, on retrouve à chaque fois la chambre.
Bien sûr.
C'était l'exercice que vous vous donniez dans cette réflexion autour d'écrire sur la chambre. Il fallait une chambre et une histoire ensuite.
On passe beaucoup de temps, comme vous l'avez dit, dans une chambre. La chambre, c'est la métaphore de tout espace clos. La cellule de prison, c'est une chambre. La chambre d'hôtel, c'est une chambre. La chambre de foyer, c'est aussi une chambre. Alors peut-être avec des dispositions différentes et des habitants différents, évidemment. Mais on est pratiquement toujours dans une chambre.
Alors, on est pratiquement toujours dans une chambre, donc toutes ces nouvelles se situent dans une chambre, se situent dans un espace-temps aussi, puisqu'on verra qu'il y a des périodes où vous avez écrit ces nouvelles, des périodes du passé colonial, justement, on est dans une chambre. Racontez-nous un peu ce qui a fait, quand je disais en introduction, que vous êtes parcouru dans votre écriture de ce rapport à l'Algérie. Toute votre histoire liée à l'Algérie vous emmène régulièrement, pour avoir lu beaucoup de votre littérature. On retrouve cette histoire, ce rapport à l'Algérie. Donc, il y a des histoires d'Algérie dans la chambre.
Oui.
Dans le passé colonial, il y a l'atelier, il y a la peinture, il y a Pierre Loti, il y a tout ça. Il y a plusieurs. Là, j'ai dit des mots, mais c'est des nouvelles en même temps. C'est presque des titres de nouvelles.
Oui,
on avance dans le livre avec le temps.
Voilà, c'est rythmé. Enfin, le recueil est rythmé par des dessins, d'ailleurs.
On y reviendra, oui.
Oui, de Sébastien Pignon. Et on a le 19e qui est plus effectivement colonial. Et orientaliste, le 20e et le 21e. Et moi, j'ai vécu dans l'Algérie française et coloniale, bien sûr, puisque j'y suis né et j'y ai vécu mon enfance, mon adolescence et une partie de ma jeune jeunesse, et avant de venir en France. Et j'ai vécu la guerre. Et j'ai vécu, finalement, toujours enfermée. J'ai été enfermée. Bon, t'es pas séquestrée. Mais pendant toutes ces années de guerre, j'ai été en pension au collège et au lycée. Et l'internat, c'était l'internat. Donc c'était pas la chambre, c'était le dortoir, à ce moment-là. Hein. C'était le dortoir, c'était... Bon, un espace particulier et...
Vous n'êtes pas seul dans le dortoir, pour le coup. Il n'y a pas de...
Ah non, je ne suis pas seul dans le dortoir. Il a fallu attendre, je crois, la première, la philo...
La chambre d'étudiante,
pour être dans un... Non, déjà au lycée. C'était le lycée de Kouba à Alger, dans ce qu'on appelait un box, c'est-à-dire une chambre ouverte, sans porte, mais... séparés des autres. Bon. Et chez moi, quand j'étais chez moi, les filles n'étaient pas enfermées, mais les filles ne sortaient pas. Je veux dire, quelle que soit la communauté. Hein. C'était pas seulement... les filles ne sortaient pas dans la rue seules. Elles ne sortaient pas seules dans la rue. Donc moi, j'ai le sentiment d'avoir vécu dans l'enfermement.
Alors, cette chambre que vous décrivez dans l'espace-temps, puisque vous avez rappelé qu'on est au 19e siècle, dans cette période coloniale, y compris dans le début du livre, puisque le livre se déroule de cette période jusqu'au 21e siècle, vous l'avez rappelé, on est dans l'image coloniale, avec une description très particulière et puis très précise. Là aussi, c'est un intérêt que vous portez à ces images coloniales, quand vous faites une description, c'est dans le premier texte, je crois, dans La Favorite.
Oui,
à Alger,
oui,
voilà.
Oui. Oui, bien
sûr.
Il
a fallu observer, reprendre les images, les peintures, les cartes postales, Sanetype, en fait, toutes ces images comme ça, coloniales de l'Algérie.
Oui, oui. les éditions Bleu Autour ont publié une série qui s'intitule Carte postale, femmes d'Afrique du Nord, juives d'Afrique du Nord, égyptiennes. Et c'est un travail à partir de cartes postales coloniales.
Qu'on appelait scènes et types.
Il y a scènes et types. Les scènes et types, c'est plutôt le paysage.
Ouais. Mais après, il y a les
portraits. Voilà, il y a les portraits de femmes, des portraits d'hommes, des portraits d'enfants. C'est très codé. Et moi, je me suis intéressée à cette production de cartes postales, qui était une production presque industrielle.
Qui coûte très cher d'ailleurs chez les bouquinistes aujourd'hui.
Ah, ouais. Oui. Et je les ai trouvées en brocante, aux puces, etc. Et j'en ai une collection. Et je n'ai jamais montré cette collection à mon père. Parce que je savais que ça ne lui plairait pas.
Elles étaient dérangeantes ?
Oui, je pense. Elles étaient dérangeantes. Elles sont encore aujourd'hui dérangeantes pour les anciens colonisés.
Leïla Sebar est l'invitée de voix au chapitre ce dimanche. Nous parlons de Dans la chambre, ce recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Je la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Leïla Sebar est l'invitée de voix au chapitre ce dimanche. Dans la chambre est le titre de son recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Je rappelle que ce livre est préfacé par Michel Perrault et qu'il est illustré de magnifiques dessins, croquis, d'un artiste qui s'appelle Sébastien Pignon. Il a accompagné vos textes, ce dessinateur.
Oui.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Sébastien Pignon ? Bon, ce n'est pas la première, d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres ouvrages qui ont accompagné vos textes. C'est...
Mais
Vous proposiez les titres, les nouvelles, il dessinait ou...
Non, la rencontre est ancienne. C'est le premier jour de sa vie.
avant notre pause, nous parlions de ces cartes postales coloniales que vous connaissiez bien, vous en avez une collection, et qui sont aussi le regard que vous avez porté en écrivant des nouvelles aussi.
Oui.
Cette description très précise des femmes orientales, des femmes, voilà, on parle de Delacroix, les femmes d'Alger dans leur appartement, on ne parle pas de ça dans votre livre, mais dire que les orientalistes ont si bien décrit aussi et la gestuelle, et le corps, et les mousselines, et les couleurs, et le rouge, etc.
Oui.
C'est aussi ça que vous avez fait quand vous décrivez dans une nouvelle, justement, ces images-là.
Oui, enfin, c'est l'orientalisme critiqué.
Oui, évidemment. Avec votre regard, bien sûr.
Évidemment. Mais en même temps, j'ai une tendresse pour cette image de la femme qui n'aurait pas existé de cette manière-là sans les voyageurs et les écrivains du 19e siècle. C'est-à-dire, il y avait aussi une curiosité. Ce n'était pas seulement du voyeurisme et un regard porté sur un objet étranger et sauvage, ou alors sophistiqué. Donc c'est vrai que c'est devenu, on a finalement constitué une série de clichés, mais je crois, moi, je veux regarder au-delà des clichés, cette période orientaliste.
Et quand vous décidez d'en écrire une nouvelle, vous y apportez le contemporain de ce regard ?
Oui, oui, bien sûr.
Donc critique, comme vous le dites.
Oui, et en même temps, tendre. Je veux dire, on peut être critique et on peut être tendre. Et je regarde toujours cette peinture de l'Orient, de l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, c'est une métaphore de l'Orient pour tout le 19e siècle. Comme le peuple de mon père.
À Rochefort, dans la maison Loti.
Oui.
Donc vous faites une très belle, courte, mais vraiment très courte nouvelle, mais dense en même temps,
oui.
Puisque on voit, on imagine la maison de Pierre Loti, qu'on a voulu visiter, mais qu'on ne peut plus visiter puisqu'il y a des travaux.
Oui.
Ça, c'est le présent.
Oui, oui, c'est
et puis, il y a l'histoire du passé qui est effectivement... Donc, vous avez là construit une courte nouvelle autour de ce passé de ce voyageur, auteur, écrivain, Pierre Loti, jusqu'à le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui visiter sa maison à Rochefort.
Oui, et ce qui m'amuse, c'est de mettre en scène à nouveau,
voilà,
comme je l'ai fait très, très souvent, parce que j'aime retrouver Sherazade, et j'aime retrouver Julien, et je les retrouve...
Dans la maison Loti.
Ensemble, dans la maison Loti. Ouais. Mais déjà, Sherazade est allée dans la maison Loti. Elle y est déjà allée.
Mais dans la maison Loti, qu'est-ce que vous vouliez nous raconter? Qu'est-ce que vous nous racontez dans cette histoire, au-delà de la rencontre de Julien et de Sherazade, qui sont des héros qu'on a retrouvés déjà dans d'autres de vos romans?
D'autres textes, oui.
Ouais.
Oui. Non, ce qui me plaît, c'est que Sherazade et Julien ne vieillissent pas. Et donc, j'ai écrit je ne sais combien de textes où je les
où ils réapparaissent à chaque fois. Ouais,
ils réapparaissent et elle a toujours 17 ans, il a toujours, je ne sais pas quel âge il avait, mais 23 ans, quelque chose comme ça. Et ils sont toujours là, alors que le temps passe et que les situations changent. Mais
là, vous les introduisez dans la maison Loti.
Oui, voilà. Ben, oui. enfin, pour moi. Devenus des personnages un peu mythologiques.
Parce qu'on va les retrouver un peu plus tard aussi, d'ailleurs, dans une autre nouvelle. On ne les retrouve pas?
Je crois pas.
Ah ouais? Non, mais il y a d'autres personnages qu'on retrouve, de toute façon.
Oui, on retrouve Isabelle et Bérard.
Il y a des descriptions, Isabelle et Bérard, voilà.
Oui, bien
j'allais
sûr.
Y venir. Pareil, Isabelle et Bérard, une figure importante de l'image d'une grande voyageuse. Vous en avez écrit beaucoup sur elle aussi. Et on la retrouve aussi.
Oui, j'ai écrit un recueil de nouvelles sous forme de portrait d'Isabelle Hébérard, qui s'appelle Isabelle l'Algérien, aux éditions Almanach. Et Isabelle, c'est quelqu'un que je retrouve périodiquement, je ne dirais pas malgré moi, parce que je crois que je sais ce que j'écris, mais elle est là. Sous tel ou tel prétexte, elle est là. Et dans ce recueil, elle est là, présente, dans une chambre de la Zaouia de Lamel à Boussaada, où elle vient voir Lala Zeyneb, qui est la nouvelle chef de confrérie. Ce qui est extraordinaire, c'est exceptionnel qu'une femme soit chef de confrérie. Et elle parle avec elle, elles ont une relation très amicale, et elle qui n'aime pas être enfermée, Isabelle Hébérard, c'est vraiment...
Grande vraiment voyageuse.
La grande voyageuse, et elle n'aime pas la chambre des femmes, elle n'aime pas la maison des femmes, elle n'aime pas l'enfermement. Et là, elle accepte la chambre que lui propose la Zeyneb, parce que c'est une chambre de prière. Et que Isabelle Hébérard s'est convertie à l'islam et au soufisme.
Alors dans la chambre, donc votre recueil de nouvelles, Leïla Sebar, il y a effectivement tous les espaces possibles qui sont des espaces de chambre. On l'a dit, il y a l'hôtel, il y a le bordel, il y a le foyer, il y a la prison, il y a cette chambre religieuse. Oui. Voilà. Oui. C'est une constante, c'est le choix de ces nouvelles. Il y a la chambre et sa violence aussi.
Oui, bien sûr.
Expliquez-nous un peu dans certaines nouvelles, il y a la violence. Bon, dans l'acte amoureux, voilà, jour d'un mariage, il y a la violence du viol, il y a la violence, voilà, ça aussi c'est important. La chambre n'est pas sérénité toujours.
Oui, la chambre n'est pas uniquement la chambre du bonheur. C'est la chambre de la mise à vie et de la mise à mort et de la mort. Et dans certaines nouvelles, en effet. Une violence, la violence de la prostitution.
La prostitution,
hein, puisque la chambre, c'est important. Les chambres sont... Je veux dire, aujourd'hui, on travaille avec Internet et les femmes doivent trouver une chambre pour l'acte tarifé. Et souvent violent. Donc... la chambre n'échappe pas à la violence, au sexe et à la mort.
Maria Mina Soraya, qui sont trois jeunes de Lille, parce que l'histoire c'est pas celle, vont traverser une période, enfin vont traverser une vie violente aussi, enfin, de dentelle en tout cas.
Oui, ce sont des filles comme on en rencontre
aujourd'hui, parce que là
pas seulement aujourd'hui. Oui. Hein. Là on est au 20e ou 21e siècle, mais
non, mais dans l'histoire, dans votre livre, j'entends.
Dans le livre, oui.
Oui, la prostitution n'est pas d'aujourd'hui.
Non, mais je veux dire de ces filles qui sont souvent des fugueuses, hein, qui quittent les foyers, qui quittent
les parents, puis les foyers, les parents, puis la rue, puis enfin, ils se retrouvent dans la rue.
Et qui se retrouvent dans la prostitution. Je veux dire, elles ne sont pas complètement naïves non plus. Mmh. Hein, et elles acceptent jusqu'à un certain point d'être séquestrées, d'être exploitées, et puis c'est la révolte. Mmh. Et la révolte violente.
Elle est violente,
parce qu'il y a un crime, il me semble.
Mmh. Mmh.
Oui.
Oui. Mais il n'est pas mort.
Il n'est pas mort?
Il n'est pas mort, non. Il est pas... Vous inquiétez pas, il n'est pas mort. T'inquiète pas, il n'est pas mort.
Oui.
Et on entend la sirène des pompiers. Ça se termine comme ça, l'histoire.
Oui.
Mais voilà une diversité d'histoires dans votre recueil dans la chambre, Leïla Sebar, qui est tout à fait intéressante, parce qu'on y voit vraiment des particularités. Je revois en lecture celle qui se passe dans la prison aussi. C'est aussi la prison, c'est un lieu d'enfermement, un lieu où on réfléchit, où on s'interroge sur ce qu'on fait là. Enfin, il y a quelque chose d'important aussi dans ce lieu-là.
Oui, et la jeune femme, c'est elle, je crois, qui change de prénom, c'est ça.
Oui. Hein,
parce qu'il y a une histoire d'amour tragique, il y a un parricide. Parce que le père empêche l'union qui ne lui convient pas, enfin l'union amoureuse qui ne lui convient pas. Et je crois qu'elle dit qu'elle s'appelle Graziella.
Graziella, voilà.
Oui.
Ouais, parce que c'est une héroïne qu'elle a vue dans des vidéos, je ne sais plus. Enfin,
un roman.
Un roman, oui. Oui, mais enfin, c'est repris dans les vidéos aujourd'hui, Graziella.
C'est vrai.
Un classique,
oui. Et donc, il y a aussi toutes ces transformations. Nécessaire pour échapper à la violence familiale et clanique.
Dans votre... je vais passer du présent à ce retour colonial. En lisant une nouvelle, j'ai été très séduite parce que il se trouve que je suis allée il n'y a pas très longtemps voir une grande exposition sur un peintre que vous évoquez, Guillaume...
Gustave Guillaume,
pardonnez-moi. Et il y a une nouvelle autour de cet orientaliste. Cette peinture orientale, vous l'avez décrite effectivement tout à l'heure en rappelant et quelle était la trace justement de ce passé, de ce passé colonial, de cette place. Mais ce que j'ai aimé dans ce peintre, dans cette grande exposition qui était à Roubaix il y a quelques semaines, on voit, il y a des images qu'on n'avait jamais vues ailleurs. C'était vraiment une singularité de ce peintre que de peindre la famine, que de peindre toute cette misère que subissaient les indigènes.
Bien sûr.
On l'a rarement vu, ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de peintres qui ont décrit et peint justement ce quotidien du peuple algérien pendant la colonie.
Oui, enfin, c'est l'intérêt de Gustave Guillaumet.
Ouais.
Et il est allé en Algérie, il est tombé amoureux de ce pays... Et il est allé, je ne sais pas, il est mort jeune, à 47 ans, et il y est allé une dizaine de fois.
Une dizaine de fois, oui.
Oui, des allers-retours comme ça, très passionnels. Et il a peint beaucoup. Et il a peint des tableaux de famine, de désert, de misère.
De troupeaux morts, enfin, toute la misère de...
Assez violent.
Ah oui. Hein,
assez violent. Mais en même temps, il a peint aussi des personnes et des femmes, hein, des fileuses, des tisseuses.
Oui, une tisseuse, oui.
Et il a une approche des Algériens et des Algériennes qui est très, très singulière et qui n'est pas justement dans ces clichés qui ont été vulgarisés pendant des années et des années de ce qu'on a appelé l'orientalisme de manière péjorative.
Leïla Sebar est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. Nous parlons de Dans la chambre, son recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Blotour, préfacé par Michel Perrault. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Leïla Sebar est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche. Dans la chambre est le titre de son recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Blue Autour. L'ouvrage est préfacé par Michel Perrault et il est superbement illustré d'aquarelles et de dessins de Sébastien Pignon. Plusieurs nouvelles, une nouvelle justement, ça se passe à Marseille. On a rappelé tout au long de l'émission qu'il y avait des nouvelles à Boussarda, à Strasbourg, à Constantine, à Ténès, Alger ou Oran. En tout cas, celle-ci se passe à Marseille, s'appelle La Chibania. Parlez-nous un peu de cette nouvelle, de cette femme qui va traverser la Méditerranée pour la première fois. Et pourquoi elle la traverse? Et qu'est-ce qui se passe dans ces allers-retours dans sa tête entre la France et l'Algérie, où la France, c'est le lieu où habite son mari?
Oui, moi j'ai toujours eu une grande tendresse pour les Chibani et les Chibania, qu'on ne voit pas toujours avec les Chibani d'ailleurs, parce que un certain nombre d'entre elles sont restées au pays hein, pendant que le mari était là pour travailler et envoyer le
mandat.
Le mandat. Et la lettre écrite par l'écrivain public. Et donc, ce Chibani est dans un foyer hôtel, hein, comme il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, ça disparaît, comme disparaissent d'ailleurs les cafés d'Algériens. Il n'y a plus de ces cafés, ou presque plus.
En Paris, quelques-uns, pas beaucoup, je vous l'accorde.
Y en a, non, vraiment. Hein.
Ah ben, il y en a un Ménilmontant, il y en a un Belleville.
Oui, mais ils disparaissent parce que les Chibani meurent.
Oui.
Hein, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus ces cafés.
Où on jouait au domino.
Au domino, aux cartes, au loto. Bon, c'est vrai. Je me rappelle aussi avoir dirigé un recueil, ça s'appelait Les Algériens au café. C'est il y a au moins 15 ans. Et il y a 15 ans, il y en avait encore. Mais aujourd'hui, c'est bon. Les Chinois achètent les cafés et les Algériens, encore, hein, achètent les cafés français que les Auvergnats abandonnent. Donc il y a toute une sociologie comme ça, toute une histoire des cafés français et parisiens en particulier. Et donc, cette femme décide, on a dû lui dire que son mari ne va pas très bien, elle ne veut pas le laisser seul, et elle décide d'aller le voir. Et c'est une aventure pour elle, hein, parce qu'elle n'a jamais quitté son village, jamais pris le bateau, et elle part seule. Hein, elle part seule, alors qu'elle a une famille, elle a des enfants.
Des enfants qui sont nés de ses voyages, voilà. De son mari, l'été,
oui, successivement,
voilà. Un classique, là aussi, effectivement. Oui, l'homme est seul en France, mais l'été, il va, et 9 mois après, naît un enfant, puis 2, puis 3, puis 4, puisque elle a 4 ou 5 enfants, d'ailleurs, cette
oui,
fois.
Oui, oui. Et donc, elle arrive à Marseille. Bon, elle cherche, elle a une adresse, quand même. Et elle arrive à l'hôtel, où son mari l'attend. Il sait qu'elle vient, il sait qu'elle vient. On le lui a dit, on l'a averti. Et on a l'impression qu'il attend qu'elle soit avec lui dans la chambre et dans ses bras, d'une certaine manière, pour mourir. Et c'est ce qui se passe.
Et c'est ce qui va se passer, oui.
Et on a une scène de tendresse exceptionnelle. Parce que on n'embrasse pas sa femme devant les autres, Ils ne sont pas seuls dans la chambre. Je crois qu'il doit y avoir
un autre personne qui est là, un instituteur. Hein. Ouais.
Voilà, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup d'instituteurs dans ce que j'écris.
Oui, là aussi, il y a votre histoire.
Oui. Et donc, elle est là. Il la prend dans ses bras. Et...
On frappe. L'instituteur va ouvrir. C'est elle, elle est là, c'est ma femme. La femme marche vers la fenêtre, le Shibani la prend dans ses bras. Ma femme, ma chère femme, enfin, tu es là. C'est toi, je te serre dans mes bras, je sais que ces gestes-là ne se font pas devant les autres. Mais l'instituteur, c'est comme un frère, il comprend, il ne me juge pas. Ma femme, tu sens bon, tu sens la mer sauvage et la montagne, le thym et le romarin, la menthe et le basilic de nos jardins, l'eucalyptus, le figuier, le miel... Tu es ma femme, tu es venue, je t'ai attendue. Tu es dans mes bras et tu m'embrasses comme jamais. Tu m'embrasses, un baiser doux, si doux. L'homme étreint sa femme, la Shibania rit. Mais tu es fou. Et soudain, il s'affaisse. Voilà. Mais c'est beau ce moment de... où il se retrouve dans une chambre.
Oui.
Voilà. Et tout a commencé entre lui et elle aussi dans une chambre.
Oui.
Quand ils se sont mariés.
C'est la chambre de la nuit de noces.
Voilà. Oui. Qui n'était pas d'une grande tendresse, pour le coup. Qui était, l'histoire nous le rappelle et tout. C'est une très, très belle histoire, cette. Voilà, puisqu'après, tout au long de l'histoire de la Shibania, il y a sa vie qui défile aussi avec ses filles, avec justement cette fille aînée qui va devenir couturière.
Il y a la chambre de couture.
Il y a la chambre de couture, voilà, c'est ça, puisqu'elle veut, elle rêve de créer un atelier de couture, donc une chambre de couture. Voilà des histoires qui nous invitent vraiment à s'interroger sur les espaces qui sont des espaces très personnels, très intimes, qu'on n'ose pas prendre, finalement. C'est difficile aujourd'hui, il y a toujours. Quelqu'un autour de soi, à part être dans sa chambre, justement.
Oui,
voilà, quand un enfant dérange, va dans ta chambre. Et là, il est tout seul dans sa chambre. Voilà, à un moment donné, la chambre est vraiment le repère carré qui nous invite à être soi.
À propos d'instituteurs, il y a aussi une nouvelle. Je crois qu'elle s'intitule Le maître et le disciple.
Ah oui,
je crois que c'est ça.
Oui.
Et l'instituteur est en prison, c'est pendant la guerre d'Algérie, il a été arrêté, il est en prison à Orléansville, dans sa cellule, il retrouve un jeune maquisard, et il lui apprend à lire, et il lui apprend à lire le français, l'arabe, et il lui dit, tu deviendras... tu es l'espoir de l'Algérie libre. Tu seras imam, poète et maître d'école. Je crois qu'il lui dit ça.
Ou peut-être ministre.
Ou ministre.
Voilà.
Il dit ministre.
Ou peut-être ministre.
Maître d'école.
Voilà.
Oui, vous avez raison.
Ministre. Tout à l'heure, vous rappeliez, Leïla Sebar, que vous étiez. Vous n'avez pas dit hanté, mais moi je vais le dire. Vous aimiez retrouver vos personnages, Julien, Sherazade, il y en a d'autres aussi. Mais vous aimez vous retrouver l'univers dans une histoire, dans une nouvelle, il y a l'histoire des hauts plateaux, c'est aussi, voilà, de votre histoire. Ils font partie entière de votre vie, donc quand je dis ils vous hantent, c'est trop fort,
c'est
le sentiment que vous avez.
Non, c'est pas trop fort, c'est vrai que moi je suis née sur les hauts plateaux à Floue. Dans le sud.
Vous en parlez aussi dans une nouvelle de Haut-Plateau.
Oui. Et de parents instituteurs qui étaient instituteurs à Floue. Et mon père avait été envoyé par le régime de Vichy en relégation à Floue pour son appartenance politique au PCA, au Parti communiste algérien. Et donc, je suis née à Floue, que je ne connais pas. Parce que mes parents ont quitté à Floue, je devais avoir un an ou deux ans, mais qui est là, toujours. Et c'est toujours par les autres que j'ai rencontrés en France ou en Algérie et qui étaient d'Afloue et qui me racontait à flou, et en particulier une amie très chère qui s'appelle Nora Asseval.
Merveilleuse conteuse.
Oui, et qui collecte les contes des hauts plateaux. Et à flou, et c'est vrai, je trouve toujours des prétextes.
Pour placer à flou.
Pour la présence d'à flou à travers les tapis, à travers les hauts plateaux, à travers toutes sortes de personnes et de paysages, alors que je ne connais pas à flou. Je n'y suis jamais allée. Nora me dit toujours, viens, parce qu'elle les connaît très bien. Nora,
oui, elle va collecter les...
Oui, elle me dit, viens, on va à flou, je t'emmène à flou.
Vous irez un jour?
Mais oui.
merci infiniment, merci. Leïla Sebar, c'est sur un probable voyage à oui, flou oui. que nous allons nous séparer ce dimanche. Merci pour Dans la chambre. Ce livre, ce recueil de nouvelles vient de paraître aux éditions Bleu Autour. Je rappelle qu'il a été préfacé par Michel Perrault et qu'il est superbement illustré d'aquarelles et de dessins par Sébastien Pignon. Un livre se referme. J'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à lire ces merveilleuses nouvelles. Et vous, Leïla Sebar, vous êtes toujours avec votre plume pour
oui,
le prochain?
Bien sûr, bien sûr. Vous voulez que je vous dise quoi?
Oui, dites-nous, bah oui, pour les auditeurs.
Oui,
et auditrices.
Alors ce sera un recueil collectif que je dirige avec Martine Job, qui a déjà dirigé à l'école en Algérie avant 1962. Et c'est un recueil qui va passer la Méditerranée. On est de l'autre côté, en France, du côté de ce qu'on appelle les héritiers, c'est-à-dire les enfants nés après 1962 en France, ou un petit peu avant, en France, de parents nés eux-mêmes en Algérie avant 1962. Et donc, ça s'appellera l'Algérie en héritage. Et on demande un texte bref, autobiographique, des traces mémorielles de cette Algérie-là, chez les enfants. Qui sont des adultes aujourd'hui.
Eh bien, ce sera une nouvelle occasion de vous retrouver avec un grand, grand plaisir. Merci, merci. Leïla Sebar. Dans la chambre, ça vient de paraître aux éditions Bleu Autour. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous littéraire autour de Voix au chapitre.
Voix au chapitre sur Beurre FM.